Fréquence protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Le système de santé aux États-Unis. Bonjour à tous et toutes. Quand il s'agit de parler de l'État-providence, la tendance consiste souvent à opérer des classements entre des types et à conclure à la quasi-absence d'État-providence et de sécurité sociale aux États-Unis. Le modèle français est ainsi opposé au système américain présenté comme un repoussoir. Or, il y a une sécurité sociale aux États-Unis. Simplement, elle est libérale, fragmentée, complexe, coûteuse, parfois injuste ou discriminante. Mais elle existe bel et bien. C'est juste que la forme de l'État fédéral produit des politiques très différentes de ce que font les vieux États unitaires européens. Être un modèle ne signifie pas être exemplaire, mais être imité, écrit mon invité Elisa Schell. À cet égard, le modèle français tant vanté en est-il vraiment un? Le fameux trou de la Sécu s'élève aujourd'hui à 300 millions d'euros, il a été de 28 milliards en 2010. Surtout, chaque État a bâti son propre modèle en fonction de l'histoire et des idéologies partisanes. Aux États-Unis, les dépenses de santé représentent 17,8% du PIB contre 11,5% en France en 2017. Le point nodal de la protection au pays de l'oncle Sam, c'est l'Obamacare, voté en 2010. De son vrai nom, le Patient Protection and Affordable Care Act. Grâce à lui, 20 millions de personnes qui étaient sans sécurité sociale se retrouvent sous l'aile protectrice des assurances. Ça rebat complètement les cartes du système. Donald Trump essaye de le défaire depuis son élection, mais sans réel succès. Aujourd'hui, 90% de la population américaine est protégée. La particularité du système américain, c'est qu'il est pris dans le jeu du marché et de la concurrence. Il coûte cher, il est lucratif, il est investi par les lobbies et par les assureurs surtout. Pour un couple avec deux enfants, la prime d'assurance est en moyenne de 16 000 dollars pour une année et c'est lié notamment au fait que les employeurs ont baissé le montant de leur cotisation pour leurs salariés. Du côté des assurés, c'est cher, on peut alors renoncer à se faire soigner de peur de payer trop ou se retrouver endetté parce qu'on a voulu être soigné. Les plus pauvres et les membres des minorités ethniques accèdent moins aux soins que les populations blanches issues des CSP+. Aux États-Unis, ce n'est pas l'État contre le marché, c'est l'État et le marché, dans des partenariats publics-privés qui créent des rapports de dépendance réciproques qui obligent, si on veut les comprendre, à se déprendre intellectuellement du système français. Bonjour Elisa Schell.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Elisa Schell, vous êtes politiste, chercheuse à l'Université Lyon 3 dans le cadre de la chaire Valeurs du soin. Vous êtes spécialiste des politiques sociales en France et aux États-Unis. Vous aviez publié il y a quelques années un livre intitulé « Gouverner les pauvres ». C'était aux presses universitaires de Rennes. Je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la parution d'un nouvel ouvrage « Comprendre la politique de santé aux États-Unis ». C'est sorti aux presses de l'EHESP au début de cette année. C'est le premier ouvrage de synthèse sur cette question en langue française. Alors, concernant le système de santé américain, peut-être qu'on peut commencer par tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues, à commencer, Elisa Schell, par le fait que l'État fédéral, donc celui qui chapote tout, en quelque sorte, mais il n'est pas absent. Il est là, il intervient dans la protection et dans le système de santé, cet État fédéral.
Oui, tout à fait. Il y a bien un État aux États-Unis et il y a même des États. C'est le principe du système fédéral. L'État fédéral, son rôle est d'impulser les réformes et pour cela, il apporte des subventions aux États fédérés qui sont chargés de les mettre en œuvre.
D'accord. Alors, dans le cas du système de santé, par exemple, il va financer comment? Qu'est-ce qu'il lance? Il lance des programmes de soins? Il lance des obligations de protection? Racontez-nous un peu.
Eh bien, par exemple, quand il décide de changer les règles, il va apporter un certain nombre d'enveloppes budgétaires pour que les États les mettent en œuvre, tout simplement.
D'accord. Alors, donc, l'idée, en fait, quand on lit votre ouvrage, c'est qu'il y a, contrairement au système français, on va dire, qui est sur un financement quasi exclusivement public, aux États-Unis, il y a un mélange entre public et privé, entre secteur public et secteur privé dans le domaine de la santé, Elisa Schell.
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs un trait que l'on observe dans d'autres secteurs de l'action publique. Dans le domaine de la santé, on peut dire que un tiers des hôpitaux ou de la couverture santé sont gérés par le public. Et le reste est géré par le privé. C'est un trait historique aux États-Unis. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le secteur privé aux États-Unis désigne en fait deux réalités bien différentes. D'un côté, le secteur privé à but lucratif, donc les opérateurs commerciaux, et les opérateurs privés à but non lucratif, qui fonctionnent davantage sur un modèle associatif.
Et alors, par exemple, dans votre ouvrage, vous parlez d'organisations, alors il n'y a pas d'équivalent en français, qui sont des organisations intégrées privées de prestations de soins, elles s'appellent les « managed care ». Ça fonctionne comment ? C'est quoi ces structures prestataires privés ?
Ce sont en fait des réseaux de soins qui sont également des assurances. C'est la grande différence par rapport au système français, c'est qu'on a des acteurs qui jouent plusieurs rôles simultanément. Et ces organisations sont entendues faire des économies à la fois au niveau du système, au niveau général, mais aussi pour les assurés, puisque se faire soigner dans un réseau de soins de type managed care, ce qui est le modèle le plus courant aux États-Unis, est moins cher que de se faire soigner de manière totalement choisi dans n'importe quel prestataire
de
santé.
On se présente pas n'importe comment. Donc l'idée, c'est qu'en fait, si je suis citoyen américain, je souscris une assurance, je peux souscrire une assurance chez un prestataire qui contrôle au fond la chaîne et qui est associé ou qui a fondé des hôpitaux, par exemple. Et donc, à ce moment-là, je vais me faire soigner dans l'hôpital de mon assureur. C'est ça l'idée.
C'est ça. Et comme il y a des négociations préalables entre l'assureur et le prestataire de soins, les tarifs sont plus avantageux.
D'accord, donc c'est effectivement plutôt rentable. 20%, vous dites dans votre ouvrage, 20% des hôpitaux sont à but lucratif, ça veut dire qu'ils font de l'argent dans le soin, c'est-à-dire qu'au fond, si je vais me faire soigner là-bas, j'ai pas de remboursement et ce que je paye va à l'hôpital dans son trésor à lui ?
C'est en fait qu'il y a un reste à charge plus important. Ce sont des hôpitaux qui sont plus luxueux, entre guillemets, qui ont de meilleures prestations d'hôtellerie, qui ont des chirurgiens plus renommés et donc pour lesquels les tarifs sont plus élevés. Cela n'enlève pas la prise en charge, mais le reste à charge pour l'assuré est plus important.
D'un point de vue technique, Elisa Schell, on n'en parle pas souvent, mais aux États-Unis, il y a quand même une médecine de pointe, parce qu'on a toujours la sensation que comme c'est mal remboursé, on se dit que les soins doivent être un peu moyens. En réalité, il y a une médecine de bonne qualité, il y a des machines de bonne qualité, racontez-nous.
L'un des points forts du système de santé américain, c'est l'innovation. Vous l'avez dit, le système est fondé sur le modèle d'un marché. Et puisque ce modèle est fondé sur le marché, cela favorise davantage l'innovation, contrairement à un pays comme la France qui va mettre davantage l'accent sur la réglementation. Cela se traduit par des technologies plus avancées, plus de recherche, plus de financement injecté à la fois par les entreprises et les fondations philanthropiques dans la recherche médicale et technologique. C'est aussi la raison pour laquelle les soins sont très chers. On estime que les coûts de santé sont très chers aux États-Unis, à peu près à 2/3 à cause des technologies médicales.
Oui, parce qu'on accède finalement à des machines et à des soins de très bonne qualité. Alors si on essaye de caractériser la sécurité sociale américaine, Elisa Schell, on est frappé par le fait qu'elle est très éclatée. Fragmenté, au contraire du système français qui est très unitaire et très centralisé depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui est éclaté ? C'est la protection ? C'est le rôle des États fédérés comment ça se répartit, tout ça ?
Le système est éclaté car il n'y a pas d'opérateur centralisé. Donc, il y a des coordinations, des partenariats qui s'établissent entre des acteurs qui ont des statuts hétérogènes, publics, privés, à but lucratif, à but non lucratif. En réalité, aux États-Unis, le système n'est pas un système. Si on parle de système de santé, c'est par facilité de langage pour savoir de quoi l'on parle, mais en vérité, il n'y a pas de coordination globale du système de santé américain. Ce système s'apparente davantage à un patchwork. Donc avec d'un côté l'assurance santé souscrite via l'employeur, qui représente une grosse moitié des Américains, et des sous-systèmes autres pour assurer les personnes les plus pauvres, donc c'est Medicaid, pour assurer les personnes âgées, c'est Medicare. Et il y a en plus de cela toute une série de personnes qui souscrivent à des assurances directement auprès des compagnies.
Alors ça, c'est important. Je voudrais qu'on approfondisse un tout petit peu. Les premiers éléments que vous avez indiqués, c'est qu'il y a, au fond, pratiquement la moitié, une personne sur deux, qui est protégée au niveau de la sécurité sociale, par son employeur, lui-même d'ailleurs est protégé, et aussi parfois sa famille. Donc ça, c'est vraiment le système dominant, on souscrit via son employeur.
Oui, tout à fait.
D'accord. Donc comment ça se passe? C'est dans la feuille de paye.
C'est négocié au moment de l'embauche.
Ouais.
Donc c'est ce qu'on appelle des benefits, donc des bénéfices, des accessoires du salaire, dirait-on en langage juridique français. Cela fait partie des avantages qui sont négociés au moment de l'embauche et qui sont très variables en fonction des entreprises. Ça concerne surtout les grandes entreprises. Évidemment,
ouais,
puisque
les moyens d'eux.
Le pouvoir de ces entreprises, c'est de pouvoir négocier en gros des contrats d'assurance santé, d'où les tarifs avantageux.
D'accord. Alors pour les autres, selon l'âge ou la situation, donc vous avez indiqué Medicare et Medicaid. Alors racontez-nous, Medicare, c'est quoi? C'est pour les personnes âgées, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et c'est un système qui est géré par l'État fédéral.
D'accord. Donc là, pour le coup, si on a plus de 65 ans, on souscrit à une sécurité sociale qui ressemble un peu au modèle français?
Oui, en quelque sorte.
D'accord. Ça couvre aussi les personnes handicapées?
Oui, par exemple, les personnes qui ont des maladies rénales chroniques rentrent dans le schéma de Medicare.
D'accord. Et alors l'autre grand système aussi, qui était connu avant l'Obamacare, c'est Medicaid. Et Medicaid, ça couvre quoi?
Alors, ce sont les personnes pauvres, donc en dessous du seuil fédéral de pauvreté, et qui ont des enfants. C'est un détail important par rapport à la réforme Obamacare, et qui est, lui, géré par les États fédérés, qui est donc soumis aux politiques locaux, à la volonté des gouverneurs de mettre en œuvre une politique sociale plus ou moins généreuse dans leur État.
Donc il existe dans tous les États, mais de manière différente. Ça veut dire je ne vais pas forcément payer le même prix si je suis en Californie et dans le Wyoming, par exemple, concrètement.
La couverture n'est pas la même. Déjà, les réseaux de prestataires ne sont pas les mêmes. Les bases de remboursement ne sont pas nécessairement les mêmes non plus.
D'accord, donc il faut vraiment repérer, si on peut, les États où c'est plus intéressant. Alors la grande réforme que j'évoquais en début d'émission, c'est l'Obamacare. Et là, ça a un peu révolutionné le système, ou en tout cas, ça l'a amélioré. Racontez-nous cette Obamacare, Elisa Schell.
Obamacare, c'est la première grande réforme de santé depuis 1965. En 1965, avaient été créés Medicare et Medicaid. En 2010, donc le président Barack Obama signe cette loi qui est considérée par beaucoup comme historique. Elle recouvre un grand nombre de dispositions. La principale d'entre elles, c'est l'assurance obligatoire à la fois pour les employeurs et les assurés. Alors en France, on dirait une couverture santé universelle, mais aux États-Unis, on parle bien d'assurance santé obligatoire. Et à l'époque, cette obligation est assortie d'une pénalité, de sorte que si on n'est pas assuré, on est obligé de payer une amende au moment où on renseigne sa situation fiscale.
C'était incitatif, là. Il fallait vraiment, pour que le système marche, il fallait vraiment que tout le monde s'assure et pas qu'il y ait des stratégies de sortie du système.
Tout à fait. Et cela aussi obligeait les assureurs à accepter les personnes qui étaient malades et qui étaient auparavant refusées, puisqu'elles étaient en quelque sorte de mauvais sociétaires pour les assurances, puisqu'elles coûtaient cher. Et Obamacare supprime ce refus pour antécédents médicaux.
Donc le système, sans rentrer dans les détails techniques, parce que c'est quand même un montage, vous le racontez très bien dans votre ouvrage, qui est très didactique, mais c'est un montage passablement complexe, mais l'idée c'est qu'on va demander à tout le monde de s'assurer, l'État fédéral a négocié avec les assureurs pour qu'ils accueillent un maximum de gens, et effectivement vont pouvoir s'assurer, y compris des gens qui, dans le précédent système, n'auraient pas été admis parce qu'ils avaient une maladie ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment l'idée que ça passe par les assureurs.
Oui, tout à fait. L'État fédéral intervient sur deux points. Premièrement, l'octroi de subventions aux assurances pour les assurances santé, de sorte qu'elles soient abordables pour les personnes malades ou potentiellement malades. Et elle met également en place des sortes de centrales d'achat qui regroupent en fait des contrats d'assurance répondant à des critères de qualité minimum. On est bien là dans un schéma où c'est l'État fédéral qui fait souscrire au contrat de l'assurance privée.
Oui, donc on est vraiment dans le partenariat public-privé dont on parlait.
Tout à fait, ce ne sont pas des assurances publiques.
Et sauf qu'effectivement, il y a quelque chose qui ressemble, si vraiment on veut chercher ce qui ressemble, mais quelque chose qui ressemble à l'État-providence, à l'européenne, qui est que l'État fédéral abonde, ou en tout cas subventionne, pour faire baisser le coût de l'assurance.
Oui, tout à fait. C'est le moyen qu'il a de convaincre les autorités et les assurés de rentrer dans ce système.
Pour avoir une idée du prix, même si c'est évidemment, enfin, ou du coût, c'est évidemment très très variable, vous dites dans votre ouvrage, pour une personne seule, ce sera 4000 euros en moyenne pour s'assurer. On ne se rend pas compte, c'est abordable, ça dépend évidemment de tout un tas de situations, mais en tout cas, voilà, on peut mettre une somme concrète, Elisa Schell, à Obamacare.
Il est très difficile de mettre des sommes précises en face de chaque contrat d'assurance, puisque les couvertures sont très variables et les cotisations sont également variables. Pour rappel, une opération chirurgicale aux États-Unis peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc quand vous avez une assurance à 4 000 euros, ce n'est pas excessif. Oui. Ça reste quelque chose de l'ordre de l'abordable. Et on le perçoit mal du point de vue de la France, puisque les tarifs que nous voyons ici sont très peu élevés. 25 euros pour une consultation chez un généraliste de secteur 1, c'est inimaginable dans le système américain.
Ce serait 10 fois plus cher. Puis sachant que nous, on ne connaît pas aussi tous les coûts, puisque parfois, on ne voit pas du tout de facture ou on la voit très vite à l'hôpital. Donc, on n'a pas forcément une idée très claire en France. On va écouter une des nombreuses Obamacare songs qui ont suivi l'adoption de la loi.
Oval Office, call me President Barack, President Barack, President Barack. And if my critics get an attitude, I tell them to stop, I tell them to stop, I tell them to stop. And if you need that new healthcare, sign up 'cause it's hot, sign up 'cause it's hot, sign up 'cause it's hot. I'm Commander in Chief and I'm 2 terms strong, plus I've got this healthcare which has got it going on. I am a nice press with some nice dreams. See this flag pin? See my swag's clean, affordable healthcare, officially a go. Oh, that's better than what we had a year ago. Your options are really widespread. Don't worry about what them, they, her, or he said. I could educate you, this could be your health ad. Jump on your mom's plan, that's how you get a his ad. Present, I'm the man, been the presence, yes we can. And I dealt with all this healthcare while dealing with our rent. So don't try to talk about my plan like the people haven't wanted this. They've waited long for this, and it covers all conditions that could pre-exist. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take it easy and rock to the gym from Barack Obese. When I'm in the Oval Office, call me President Barack, President Barack, President Barack. And if my critics get an attitude, I tell them to stop, I tell them to stop, I tell them to stop. And if you need that new health care, sign up 'cause it's hot, sign up 'cause it's hot, sign up 'cause it's hot. I'm Commander in Chief and I'm 2 terms strong, and I've got this health care which has got it going on. I'm the boss man.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, le système de santé aux États-Unis. Nous sommes en compagnie d'Elisa Schell. Alors j'ai choisi cette chanson, c'est tombé sur elle, il y en avait plein, il y a des chansons pour, celle-là est plutôt favorable, elle invite à souscrire l'assurance Obamacare, et puis d'autres sont très 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 très, très négatives. On se rend pas compte forcément depuis la France, mais cet Obamacare, il est en discussion, en débat, voilà, ça a changé des perspectives énormes aux États-Unis.
Cette réforme de la santé fait l'objet de débats récurrents et omniprésents dans la presse et dans toutes les formes de communication depuis 10 ans. Les Américains se l'approprient, la discutent. Il faut bien avoir à l'esprit que cette réforme, eh bien, touche aux valeurs profondes de la société américaine. Et cela se traduit par eh bien, ce type de chansons, pour ou contre, de mobilisation sous différentes formes, de la création d'objets dérivés.
Il y a eu des manifs, on avait souvenir d'un portrait d'Obama grimé en Hitler. Enfin, c'est allé très très loin dans l'opposition à la réforme de santé, on va en dire un mot. Mais donc parmi les gens très très hostiles, le Parti républicain, parti historique, pourquoi est-ce que ce parti, qui a aussi des électeurs et qui peut avoir des électeurs pauvres, pourquoi est-ce que ce parti s'est opposé à cette réforme, Elisa Schell?
Le Parti républicain est historiquement opposé aux réformes de la santé. Sous la période de la guerre froide, on critiquait les tentatives de réforme sous le terme de « socialized medicine » qui voulait dire « médecine communiste », ce qui était l'insulte suprême et qui a été ressortie à l'occasion des débats d'Obamacare. Les républicains y sont très opposés car ils ont une vision de l'État fédéral qui doit rester à distance de la vie des administrés. En quelque sorte, les choses doivent s'organiser par le bas et c'est la valeur de liberté et de responsabilité individuelle qui prévalent par rapport à celle de justice sociale que nous connaissons davantage en France.
C'est l'idée qu'il ne faut pas avoir un État trop présent, trop paternaliste, qui vient s'occuper de nous du côté des républicains. Il faut que l'État s'occupe d'autre chose.
Il ne faut pas que l'État décide pour nous. C'est ce que disent les républicains. Et des normes nationales ne peuvent être imposées. On le voit, il y a d'énormes débats autour de l'avortement et de l'Obamacare, puisque l'avortement fait partie du panier de soins de base d'Obamacare, ce qui est absolument scandaleux pour ces républicains qui sont des conservateurs et qui ont une vision pro-life, comme on dit, pro-vie, et qui considèrent que l'argent public ne peut pas subventionner ce type d'acte médical.
Elisa Schell, il y a même dans votre ouvrage un moment, vous racontez qu'on a tenté de démontrer que l'Obamacare était inconstitutionnel avec une argutie ou un argument juridique. Racontez-nous.
Ah oui, alors ça s'est joué dans les tribunaux, pas seulement dans les médias. Et la raison en était à la fois simple et incongrue vue de la France. L'universalisation de la couverture santé était perçue par les républicains comme de la vente forcée et donc comme une infraction au code du commerce et donc aux compétences exclusives de l'État fédéral.
C'est-à-dire vente forcée parce qu'on obligeait les citoyens américains à acheter, si j'ose dire, une assurance, à se couvrir eux-mêmes.
Et oui, tout à fait, car dans l'état d'esprit états-unien, on achète une assurance plus qu'on y souscrit.
Oui, c'est ça, ils se pensent comme des clients. Est-ce qu'il y avait aussi l'idée que ça coûtait cher, au fond, ce système-là ? Parce que, on l'a dit, c'est l'État fédéral qui subventionne en partie les assureurs, donc il y a une dépense publique, ça a gêné ça, Elisa Schell ?
Oui, tout à fait, les républicains étaient extrêmement critiques quant au coût global de la réforme et considérait que à état minimal devait associer dépenses minimales.
Qu'est-ce qu'ils proposent les républicains ? Ils ont une alternative. Là, on a beaucoup parlé du fait qu'ils veulent démonter l'Obamacare, mais ils veulent revenir à quoi ? Au système antérieur ou pourrait souscrire qui peut des assurances au prix normal ? Quelle est l'idée chez les républicains ?
Ils veulent rester à un système de marché classique, c'est-à-dire que ces produits existent. Si on veut les acheter, on les achète. Si on ne veut pas les acheter, on ne les achète pas.
D'accord. Donc c'est toujours l'idée d'un choix individuel, d'une responsabilité individuelle.
Oui, tout à fait.
Et il ne faut pas que l'État se mêle de ça ?
Non, ce n'est pas du ressort de l'État fédéral d'imposer des choix en la matière.
D'accord. Alors, on peut peut-être dire un mot des acteurs, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, des acteurs de la santé. Elisa Schell, dans votre ouvrage, vous montrez que, historiquement, la profession de médecin va s'institutionnaliser, on va dire, à la fin du 19e siècle. Ils vont devenir très puissants. Le sont-ils toujours ? Et comment ont-ils vu la réforme Obama ? Alors, est-ce qu'ils sont toujours puissants, ces médecins ?
C'est plus que c'était, Emmanuel. Ils étaient très puissants et très influents sur la législation des années 1930 aux années 1970 environ. Et se passe dans les années 70 un tournant commercial qui va voir l'ascension des opérateurs privés à but lucratif. Mmh. À partir de cette période, ce sont bien les assurances qui deviennent les acteurs les plus influents dans ce domaine, et non plus les médecins. Médecin reste une profession valorisée aux États-Unis, notamment pour toutes les médecines de spécialité. Ils ont soutenu Obamacare.
Ça, c'est important.
Ils ont été d'ailleurs consultés en amont de la réforme par les équipes de la Maison-Blanche pour s'ajuster, on va dire, avant le passage et éviter les confrontations.
Ouais, eux ont intérêt à ce que, au fond, tout le monde soit assuré, puisque voilà, ça permettrait pour les médecins d'avoir toujours des consultations et d'avoir des patients solvables.
Et oui, puisque ce ne sont pas eux qui sont payeurs, donc ils ne sont pas perdants dans cette réforme.
Autre acteur de la santé dans un monde de la santé relativement vaste, et vous en parlez dans votre ouvrage, c'est les lobbies, ce sont les lobbies. Alors il y a des lobbies de toutes sortes, puisque c'est très institutionnalisé aux États-Unis, il y a des lobbies de pharmaciens, évidemment, de laboratoires, il y a aussi des lobbies de patients. Racontez-nous un peu le paysage des lobbies autour de la santé.
Les lobbyistes aux États-Unis sont enregistrés. Donc on peut savoir exactement combien ils sont, et pour la santé c'est 2872.
Lobby.
Lobbyiste,
d'accord.
Le premier lobby est bien sûr celui de l'industrie pharmaceutique. Il dépense 280 millions de dollars par an pour influencer la législation d'une manière ou d'une autre. Par le financement de campagnes électorales, donc les années où il y a des campagnes, ce n'est quand même pas rien. Les groupes de patients, eux, vont procéder de manière différente. Ils peuvent recourir au service d'un lobbyiste qui va agir en tant que prestataire, en quelque sorte, qui va entendre la cause entendue, et contre une somme, il va défendre telle ou telle cause à tel ou tel sénateur ou représentant. Mmh. Néanmoins, les moyens d'action ne sont pas du tout les mêmes. Vous imaginez bien, avec l'industrie pharmaceutique d'un côté et des groupes de retraités ou de patients ayant une maladie chronique de l'autre, il y a bien sûr un monde de différence. Néanmoins, il y a aussi parfois des intersections. Mmh. Et on a vu aussi des groupes de patients être instrumentalisés ou en tout cas financés par l'industrie pharmaceutique. Ça a été le cas, par exemple, pour dénigrer publiquement l'Obamacare.
Mais il y a l'idée quand même que par ces lobbies-là qui ont mauvaise presse en France mais qui sont très admis aux États-Unis, on représente et on défend des intérêts, y compris de gens qui, s'il n'y avait pas ça, auraient du mal à s'organiser, Elisa Schell.
Et oui, puisque les lobbies aussi négatifs paraissent-ils en France sont un moyen aux États-Unis de faire entendre sa voix, tout simplement, selon un mécanisme de marché. Donc, il n'y a pas d'intérêt général qui est défini par une administration centralisée comme on le voit en France, mais c'est plutôt quelque chose qui part de la base, c'est comme ça que c'est perçu aux États-Unis, et qui offre un espace à tel ou tel groupe pour essayer d'influencer la législation en sa faveur.
On a vu un système que vous nous avez présenté, un système, on va l'appeler comme ça, hein, de santé, qui est allé au fond, qui est devenu de plus en plus inclusif, et en même temps, il y a des gens qui échappent, Elisa Schell, à cette protection sociale, qui sont les derniers, si j'ose dire, qui ne sont pas dans le système.
Eh bien, il y a encore quelques trous dans la couverture sociale américaine, et ne sont pas inclus les migrants illégaux, qui n'ont pas de droits et qui sont soignés en général dans des cliniques de premier recours lorsque nécessaire, mais ils ne sont pas assurés. Sont aussi potentiellement fragiles les professions indépendantes, ainsi que les salariés des petites entreprises ou qui travaillent à temps partiel, puisque la couverture est obligatoire, mais uniquement pour les salariés à temps plein. Donc on peut encore être non assuré aux États-Unis. On peut aussi être mal assuré, c'est-à-dire avoir souscrit des contrats d'assurance à bas prix, mais aussi à basse couverture. C'est l'option qu'a défendue Donald Trump récemment. Et cela crée aussi un certain nombre de problématiques sociales.
On sait combien de gens ne sont pas couverts aujourd'hui, malgré tous les systèmes, par tous les systèmes dont on vient de parler.
Il reste 28,5 millions de personnes qui ne sont pas assurées aujourd'hui aux États-Unis.
Merci beaucoup, Elisa Schell. Cette émission s'achève. Merci pour toutes vos explications. Je vous remercie encore aussi pour votre présence. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Comprendre la politique de santé aux États-Unis ». C'est sorti aux presses de l'EHESP en 2019, là en tout début d'année. Merci à Arnaud à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.